Et puisqu'il est pile 6h en ce dimanche, tout de suite nous allons retrouver Marion Calais pour le premier journal. Marion, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Nous sommes le dimanche 24 mai sur Europe 1.
Ça fait drôle de recevoir la communion d'un prêtre qui a un masque. Mais s'il faut, il faut.
Une première messe dès hier célébrée en France. Déroulement particulier, mais des fidèles heureux malgré tout de se retrouver.
Les ambitions de Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, vous le savez, maire aussi désormais de la bonne ville de Tourcoing. Il fait également ce matin une offre de service dans les colonnes du journal du dimanche. Et cette offre ne passe pas inaperçue.
Y aura-t-il des assesseurs dans les bureaux de vote le 28 juin prochain? Le recrutement s'annonce difficile. Charlotte, tombée malade après le premier tour, n'y retournera pas.
Il y avait contact, vu qu'il se penchait pour signer sur la table, il touchait la table, l'urne. Clairement, je souhaite bonne chance à ceux qui vont se porter volontaires.
Dans ce journal aussi, les contradictions de la plage dynamique, illustration à la Ciotat.
Et un appel au soutien, l'appel au soutien des clubs de sport.
15% des clubs sont ou vont être en difficulté de trésorerie. On doit donc mettre en place quelque chose pour les aider.
Une campagne de dons vient d'être lancée. Tous les détails dans ce journal et dans un instant.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Elle s'était, semble-t-il, préparée. C'est ainsi qu'à peine les cérémonies religieuses réautorisées, de nombreuses paroisses ont pu, dès hier, proposer une première messe à leurs fidèles.
Dans des conditions forcément très particulières. Du coup, Justin Morin a voulu suivre l'une de ces cérémonies en l'église Saint-Justin. Et oui, ça ne s'invente pas. C'est à Levallois-Perret. C'est juste au nord-ouest de Paris.
La paix soit avec vous.
Enfin, une réponse dans l'assistance. Depuis 2 mois, les messes étaient sans public, retransmises sur Internet. Le plaisir de l'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget, n'est pas fin.
Frères et sœurs, quelle joie d'être réunis à nouveau pour célébrer l'Eucharistie.
Dans l'assemblée, les masques ne suffisent pas à cacher les sourires, même si une rangée sur deux est laissée libre, même si des feuilles vertes bien espacées sur les bancs indiquent où l'on peut s'asseoir. Bref, même si le virus rappelle qu'il n'a pas disparu, les fidèles attendaient cela.
Je suis très heureuse d'être ensemble, oui, là c'était incroyable quoi.
C'était vraiment une attente très forte que j'avais, parce que c'est quelque chose de la relation avec le Seigneur, mais aussi de la relation avec nos frères et sœurs de notre paroisse. Donc on est vraiment très heureux.
Une messe à la télé, c'est pas pareil.
Martine, âgée de plus de 70 ans, a retrouvé le plaisir de discuter sur le parvis, mais toujours à bonne distance.
Bah, il faut, hein, attendez, faut pas juste se dire, oui, on a le droit de faire la messe, on fait la messe, non, être responsable, c'est accepter que oui, on ait un masque. C'est vrai que ça fait drôle de recevoir la communion d'un prêtre qui a un masque, mais s'il faut, il faut.
Désormais, seules 300 personnes pourront assister aux messes dans cette église, mais elles continueront d'être retransmises sur Internet.
Moindre empressement du côté des autorités juives et musulmanes qui préconisent un retour dans les lieux de culte à partir de début juin. D'ailleurs, aujourd'hui, les fidèles musulmans célébreront chez eux et non à la mosquée la prière de l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du ramadan.
Un cumul pendant un temps seulement. Autrement dit, Gérald Darmanin l'assure ce matin dans le JDD, sa double casquette de maire de Tourcoing et de ministre des Comptes publics ne sera pas éternelle.
Même s'il avoue dans le même temps vouloir continuer à travailler avec Emmanuel Macron pour réparer le pays, il formule d'ailleurs un certain nombre de propositions. Et ce n'est pas anodin, comme le souligne David Revaud-Dallone, qu'il a interrogé pour le JDD.
Il propose beaucoup de choses très au-delà de son secteur ministériel, et notamment sa grande proposition, c'est le recours à la participation des salariés. Il reprend une vieille idée chère au général de Gaulle, selon laquelle, je cite, « les salariés deviennent actionnaires de l'entreprise, ils perçoivent leur part sur les bénéfices qu'elle réalise, ils augmentent leur pouvoir d'achat par l'intéressement. » C'est une interview à dominante très sociale, assez populaire, de la part d'un ministre qui est venu de la droite. Très clairement, il y a une offensive de Gérald Darmanin, et donc évidemment, dans la perspective du remaniement, lui bien sûr dit qu'il n'ambitionne rien, mais très clairement, cette interview, par les propositions qu'elle comporte, par le ton qu'il adopte, c'est une offre de service ou une offre de candidature pour aller plus haut. Dans cette interview, Gérald Darmanin, il nous dévoile ses ambitions et elles sont assez importantes.
David Revaud-Dallone avec Caroline Baudry pour Europe 1. Eux sont les petites mains indispensables et bénévoles de la démocratie, mais pas sûr que les assesseurs répondent présents pour le second tour des municipales le 28 juin prochain.
Un certain nombre d'entre eux ont été contaminés, vous le savez, à l'occasion du premier tour à la mi-mars, et cela a marqué pas mal les esprits, comme l'a constaté Caroline Baudry auprès de plusieurs d'entre eux.
Cette journée était tellement traumatisante au premier tour que pour être assesseur, c'est non.
La réponse de Charlotte quand on lui demande de retourner dans un bureau de vote parisien. Tombée malade quelques jours après le premier tour, elle estime que sa sécurité n'a pas été assurée.
On s'est retrouvé sans masque, sans gants. Tout le travail de l'assesseur, c'est déjà de manipuler les cahiers d'émargement. Il y avait contact, vu qu'il se penchait pour signer sur la table, il touchait la table, l'urne. Clairement, je souhaite bonne chance à ceux qui vont se porter volontaires.
Même expérience amère pour Olivier, président d'un bureau de vote à Lyon. Malgré son hospitalisation pour Covid, il assurera, lui, de nouveau le poste le 28 juin. Méfiant, il attend désormais des réponses claires de la préfecture.
Est-ce que l'agent de sécurité dehors va demander à chacun s'il a son propre stylo ? Les électeurs, s'ils rentrent dans mon bureau de vote et qu'ils n'ont pas de masque, je les fais sortir. Est-ce qu'ils vont prévoir du personnel qui viendra à 8 heures pour supplanter si les assesseurs ne viennent pas ? Et là, pour le deuxième tour, moi, je veux avoir un cadre légal, savoir...
Inquiet, il outrepasse déjà ce rôle bénévole en passant des coups de fil à ses amis pour les convaincre d'être assesseurs et en achetant des boîtes de masques sur ses propres deniers.
Un second tour qui suscite aussi des questions pour les électeurs et pour tenter de rassurer le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner dit ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France vouloir favoriser le recours à la procuration. Il assure aussi que chaque électeur qui n'aura pas de masque s'en verra proposer un dans son bureau de vote.
Europe 1, il est 6h06.
Les chiffres de la pandémie continuent de baisser chaque jour, moins de patients se trouvent en réanimation. Et si le gouvernement refuse encore de tirer des conclusions définitives, certains n'hésitent plus maintenant à évoquer la fin de l'épidémie de coronavirus.
Oui, à l'image de Raphaël Pitti, anesthésiste réanimateur mobilisé dans l'une des zones les plus touchées, à Metz. Il était l'invité hier soir de François Claus entre 18h et 20h sur Europe 1.
Je pense que c'est la fin de l'épidémie. Manifestement, nous avons passé la grande vague épidémique. Pour savoir s'il y aura une deuxième vague épidémique, au sens propre, il faut au moins attendre. Le 11 mai a été le déconfinement. Il faut savoir attendre 2 à 3 semaines pour savoir si nous devons être confrontés à une nouvelle vague, puisque c'est le temps d'incubation du Covid, de l'infection au Covid. Nous allons faire face et pour cela, il faut apprendre à vivre avec le Covid de cette manière, c'est-à-dire à être prudent, de continuer à respecter les consignes de distanciation pour faire en sorte justement qu'il ne réapparaisse pas. Peut-être nous sommes devant une infection virale de type saisonnière, c'est-à-dire que nous arrivons vers le beau temps et que le virus aurait plutôt tendance à se multiplier en zone hivernale plutôt qu'en zone estivale. S'il doit y avoir un nouveau pic épidémique, eh bien nous le saurons en automne et jusqu'en janvier-février, comme ça a été le cas cette année.
Le docteur Raphaël Pitti, par ailleurs habitué des terrains de guerre, invité de François Claus hier soir.
Autre médecin, le docteur Philippe Juvin, donc le chef des urgences de Pompidou à Paris. Il sera l'invité ce matin d'Europe 1 à 8h15 sur deux thèmes, bien sûr, où en sommes-nous sur le plan de la pandémie et aussi comment pourrait se dérouler au mieux ce qu'on appelle le Ségur de la santé qui commence demain et qui est promis pour durer 6 semaines au moins sous la direction de Nicole Notat, l'ancienne patronne d'ailleurs de la CFDT. Philippe Juvin donc sera notre invité à 8h15.
Hier en Espagne, le Premier ministre assurait que le plus dur était passé. Le pays va rouvrir ses portes aux touristes dès le mois de juillet. On sera à Barcelone dès le début du journal de 6h30 tout à l'heure.
L'Espagne où le championnat de football va reprendre le 8 juin prochain. La France devrait s'en inspirer selon Jean-Michel Aulas, le patron du club de Lyon, toujours extrêmement remonté contre la décision de stopper la Ligue 1. Elle devrait normalement, selon la proposition de la Ligue, reprendre le 23 août et la Ligue 2 le 22 août.
Prière de circuler la plage à l'heure du coronavirus. Oui à la baignade, mais non à la bronzette. Ce qui n'est pas sans provoquer quelques incohérences. Reportage aux portes de Marseille, plage Lumière à La Ciotat. Stéphane Frangy pour Europe 1.
Les règles de conduite sont rappelées régulièrement au micro. Oui pour la baignade, mais non pour la bronzette. Ce qui engendre de la frustration chez certains, comme Luc.
On n'est pas libre, donc comme on voudrait. De respecter les règles, d'être dynamique, de ne pas faire ce qu'on est en train de faire, par exemple. Pas de statique, aller se baigner, pas faire de rassemblement de personnes. Voilà. C'est assez bizarre.
Résultat, après le bain, beaucoup vont se sécher les uns à côté des autres sur le muret qui surplombe la plage. Alors que finalement, eh bien, l'espace sur le sable ne manque pas. Morgane et son papa, Jamel, ont du mal à y voir clair.
Ils sont venus, ils nous ont même fait remballer les affaires, donc les serviettes, les sacs et tout. Ils nous ont fait nous mettre contre le muret là-bas, mais au final, contre le muret, tout se serrer, on n'est même pas à moins de 2 mètres. Donc c'est un peu...
On n'a pas le droit d'être assis, mais on a le droit d'être tous collés un à l'autre, assis sur le mur là-bas. Donc on respecte pas du tout la règle des 1 mètre.
Ce qui engendre un jeu du chat et de la souris à l'approche des patrouilles. Certains vont à l'eau et reviennent ensuite à leur serviette. La Ciotat, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et face à l'épidémie, les appels à l'aide se multiplient. Celui du monde du livre, hier, celui aussi des associations sportives.
Une campagne de dons vient d'être lancée pour tenter de soutenir les clubs de sport qui animent en temps normal la vie de nos communes et de nos quartiers. Témoignages et explications tout de suite avec vous, Corinne Boulou, pour Europe 1.
C'est le moment de dire oui, mon club, ça compte et donc je l'aide.
15% des 350 000 clubs en France sont en grande difficulté financière ou vont l'être. Surtout, la reprise d'activité prévue en septembre s'accompagne déjà d'une incertitude sur les moyens d'y parvenir. Le CNOSF, le ministère des Sports et la Fondation du Sport ont donc mis en place cette plateforme de collecte de dons qui leur est destinée. Précision de Denis Masseglia qui préside le comité olympique.
85% du don va vers le club souhaité par le donateur. Moi-même, j'ai donné pour mon club. Mais 10% sont pris pour aller vers un fonds de solidarité pour les clubs les plus nécessiteux, ceux qui n'ont pas la possibilité d'être aidés par des généreux donateurs.
Alors hier soir, quelques heures après le début de l'opération, près de 300 clubs proposant diverses activités étaient inscrits sur la plateforme afin de bénéficier de dons défiscalisés. Récolte espérée, 10 à 50 millions d'euros.
Et la plateforme, on le rappelle, pour aider ces clubs, c'est soutien. Tonclub.fr.
Soutiens-tonclub.fr. Ceci conclut le journal de 6h. Présenté par Marion Calais, elle sera là dans 50 minutes pour le 7h. À tout à l'heure, Marion.